C'est une parole que nous avons. Nous devons considérer parce que c'est des promesses et nous sommes appelés à croire ce que Dieu dit, à la promesse que Dieu a dit, c'est-à-dire à croire qu'il veille pour réaliser ce qu'il a dit. Alors c'est pour ça que là, vous voyez, ça c'est l'apôtre Pierre qui conclut cette étude-là qu'il a faite. Il dit le Dieu de toute grâce, évidemment. C'est pas grâce, c'est toujours la grâce de Dieu. Tout secours qui vient de Dieu, c'est une grâce. Si je suis guéri, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis dans la foi, dans mon salut accompli à Golgotha, c'est la grâce de Dieu qui m'a révélé ce qui a été fait par Jésus-Christ. Si je suis protégé de quelque mal, que j'échappe à quelques attaques de l'adversaire, c'est la grâce de Dieu. Et là, il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, nous appeler en Jésus-Christ, là c'est bien précisé, c'est dans la personne, dans la communion, parce que on est appelé à la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est en lui que se trouve la grâce de Dieu, se trouve l'accomplissement, comme il dit, il vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Ça, c'est l'achèvement. Pour le moment, il va le dire aussi là, pour le moment, il y a la lutte, il y a les combats, il y a les douleurs, il y a les souffrances, il y a ces choses-là, mais ce n'est qu'un petit temps. Pour un peu de temps, vous avez remarqué ce qu'il a dit là? Après que vous aurez souffert un peu de temps, comment est-ce que vous pouvez comparer le temps, même si c'est des années? Qu'est-ce que c'est en regard de l'éternité? Alors, il dit un peu de temps, c'est un peu de temps. Faut pas, même si ça dure des années, hein. C'est pas beaucoup, puisqu'à la fin, il y a l'éternité. L'important. Parce que quand on souffre, si on souffre à cause, moi je sais pas, beaucoup de choses, hein. Des fois, ben, même en mangeant, on mange. Des fois, ben, il y a des fois, on a des difficultés, parce qu'on a mangé quelque chose, je sais pas, mais pas, on a trop vite mangé, je sais pas. C'est une erreur, mais. Alors peut-être on peut souffrir, hein, dans le corps. Mais un peu de temps, ça va passer. Ça va sortir le mal. Peut-être la chose que j'ai avalée qui est mauvaise pour moi, il faut que ça sorte. Hein. Donc, ça va sortir. Ainsi, on peut avoir. Il y a tant de choses qui sont en nous. Des fois, on ne fait pas attention. Il faut des fois. Si on a fait une erreur, si on a pris quelque chose que le Seigneur pourtant nous avait fait connaître comme mauvaise, et puis qu'on a pris quand même, eh ben, on va porter les conséquences pendant quelque temps. Mais le Seigneur en Jésus-Christ, il nous a fait la grâce et le secours, il nous a porté ce secours. Et c'est pour ça qu'il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même. Perfectionnera. J'avais noté là, parce que perfectionner, qu'est-ce que c'est? Il me semble que j'avais marqué. C'est affermir. Perfectionner, c'est nous affermir. C'est nous fortifier et nous rendre inébranlables. Il va nous rendre inébranlables, c'est comme il le dit après. Mais la perfection, c'est d'arriver à la chose qu'on recherche. Et quelle est la perfection que nous avons à rechercher? C'est être comme lui. Amen. C'est être comme Jésus. La perfection, c'est Jésus-Christ. L'homme parfait, c'était Jésus. Alors, la perfection, ça se trouve en lui. Mais là, il dit qu'il va nous affermir. Comment est-ce qu'il dit ça? Après qu'on ait souffert, il nous vous perfectionnera. Après un peu de temps de souffrance, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, nous affermir dans notre foi, dans notre volonté de faire la volonté de Dieu, il vous fortifiera, ça veut dire que notre capacité de résister à l'adversaire deviendra toujours plus forte. On est fortifié, on devient toujours plus fort. Et quand on a fait l'expérience de délivrance, après avoir résisté au diable, eh bien, on doit être plus fort, ça nous rend plus fort. Il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Amen. Inébranlable dans la foi en Jésus-Christ. C'est ça le problème. Il y en a qui cherchent d'arriver à la foi qu'enseigne sa dénomination, son credo. Non. La foi à laquelle nous avons besoin de parvenir, c'est cette foi dans la personne de Jésus, cette communion avec le Seigneur Jésus-Christ et cette marche avec lui, cette obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est important qu'on puisse persévérer, puisque le Seigneur, il a fait des promesses comme il a fait ici. C'est le Dieu de toute grâce, c'est lui qui nous a appelés en Jésus-Christ. Dieu, tout simplement c'est Dieu. Si vous ne connaissez pas même le Seigneur Jésus-Christ, enfin, vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne connaissez pas, si vous ne prenez pas, si vous ne... Oui, il faut prendre le remède pour être guéri. Et le remède, c'est d'accepter l'œuvre de Jésus-Christ. Accepter que Il a vraiment expié pour nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ça veut dire que au moment où j'ai fait une faute, et puis que je reconnais ma faute, et que je lui demande pardon, je lui demande de me pardonner, de me libérer de cette faute, alors nous confessons que nous avons péché, alors lui, à ce moment-là, il est fidèle et juste pour nous pardonner et effectivement nous délivrer des conséquences de cette faute, pour nous guérir spirituellement ou physiquement. Le Seigneur, il a compris toutes ces choses. Donc, et ensuite, alors, ayant ce point de, ce point, comment il faut dire, c'est absolu, on ne peut pas dire d'un autre mot. Ayant devant nos yeux l'absolu, que Jésus-Christ soit notre absolu, quand on a cet absolu de sa vie, son comportement, de sa parole, de ce qui est écrit, parce qu'on a des choses qui sont en absolu, si quelqu'un vient avec une doctrine et que ce n'est pas dans la Bible, vous en détournez. Si c'est dans la Bible, si c'est la parole de Dieu, le Seigneur va confirmer, c'est un absolu, parce que c'est Jésus a combattu pour que cette promesse s'accomplisse en notre faveur. C'est un absolu, c'est certain. Donc il s'agit de garder cet absolu devant les yeux. Donc il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira dans cette foi, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Ça, c'est la promesse dans ce verset-là. C'est clair. C'est juste avant la fin, vous voyez, c'est juste avant la fin. On pourrait dire, c'est la conclusion de ce que l'apôtre Pierre a voulu leur dire. Il les a exhortés ici, exhortés là. On l'a vu ces choses-là en étudiant le chapitre. Mais à la fin, il dit, voilà le principe, voilà la chose importante. le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Parce que, à quoi est-ce que j'ai été appelé? J'ai été appelé à cette gloire, à cette vie éternelle. Je n'ai pas été appelé à avoir, je ne sais pas moi, à devenir quelqu'un d'important sur cette terre. Non, j'ai été appelé à venir en Jésus-Christ pour la gloire éternelle. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ, même maintenant, je le connais au travers de la parole, je le connais au travers de l'esprit, de l'onction de l'esprit, mais je ne le connais pas encore physiquement. Mais un jour, je le connaîtrai comme mon Dieu. Amen. Amen. Quand Nicodème, d'abord, il ne voulait pas croire. Mais si je ne vois pas la chose, si je ne mets pas ma main dans son côté, il ne pouvait pas croire qu'il était ressuscité. Mais si je ne peux pas mettre ma main dans son côté et dans ses meurtrissures, non, je ne peux pas croire. Mais alors, quand il a vu, quand il a touché, mais Jésus a dit, bienheureux celui qui a cru sans avoir vu. Si tu attends seulement de voir, tu n'es pas heureux. Heureux celui qui croit sans avoir vu, c'est écrit. C'est ce que Jésus a dit. Bienheureux, même, il a dit, bienheureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. Donc, il a pu dire, alors il s'est prosterné devant lui, Nicodème, quand il a cru, s'est prosterné. Mais si je crois sans avoir vu, je me prosterne déjà. Si je crois, je me prosterne devant lui. Même si je n'ai pas vu, si je n'ai pas la preuve. Mais si je crois que c'est vrai, ce qui est écrit, ce qu'il a fait, si je crois que c'est vrai, je dis merci Seigneur. Je me prosterne. Eh bien, je te remercie parce que tu as fait cela. J'ai rien vu, j'ai rien touché, mais je suis bien heureux. Amen, je suis heureux, j'ai cru, j'ai accepté. Donc, au verset 11, il dit à lui, soit la puissance au siècle des siècles, amen. Donc, à lui, ce Dieu-là, qui vous a appelé en Jésus-Christ, il va vous perfectionner, qu'il va accomplir, vraiment que vous soyez fortifiés et rendus inébranlables, à lui sur la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Oh là, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut croire qu'il y en a une fausse. Une fausse grâce. Mais oui, une fausse grâce. Il y en a qui disent, oh, moi je crois dans la grâce. Mais ils n'ont rien reçu. Ils n'ont pas vraiment réalisé que c'était accompli dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas venus au Seigneur, ils n'ont pas accepté que... Parce qu'attention, accepter Jésus-Christ, c'est accepter qu'il est mort pour moi et que si moi je vis plus pour moi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Donc, la grâce... Mais la grâce, elle est en Jésus-Christ. La grâce de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ. Et si je ne peux pas l'accepter comme pleine bénédiction, je veux quand même continuer à vivre ma propre vie comme ça. Si je ne peux pas accepter de ne vivre plus pour moi-même, mais de vivre pour celui qui est mort pour moi, qui a donné sa vie pour moi, c'est un échange. Ça, c'est la grâce. Vous avez la grâce. Si vous êtes dans cette foi, dans la personne de Jésus-Christ, vous avez reçu la grâce, la vraie grâce. Il y a la véritable. Excuse, je relis. C'est pas Sylvain qui est, à mes yeux, un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester, pour confirmer ce qui a déjà été dit, pour attester que, quoi, la grâce de Dieu, celle qui est venue en Jésus-Christ, à laquelle vous êtes attachés, si vous êtes attachés à la grâce de Dieu en Jésus-Christ, et la véritable, c'est là qu'est la véritable. C'est celle qui est révélée, qui est accomplie dans le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai accepté, je l'ai accepté comme absolu, comme Seigneur, comme Dieu vivant. Je ne peux pas me représenter qui est Dieu, mais voilà, Dieu est venu dans la chair en Jésus-Christ. Alors je peux me représenter Jésus-Christ, parce qu'il y a la Bible qui parle de lui. Vous avez les évangiles qui nous présentent, on voit son comportement, on entend ses paroles, on sait comment il a vécu. On ne connaît pas tout. C'est écrit quelque part que si on écrivait tout ce qu'il a fait, tous les livres dans ce monde ne suffiraient pas à contenir tout ce qu'il a fait. En 3 ans et demi de son ministère. On peut penser que c'est un peu exagéré. Peut-être qu'en ce temps-là, il y avait moins de livres que maintenant. D'accord. Mais en attendant, il a fait tant et tant de choses qui ne sont pas écrites. Et le principal, l'œuvre qu'il a accomplie, Dieu a voulu que ce soit écrit. Et cette grâce nous a été faite de croire dans ce Fils Jésus-Christ, croire dans le pardon, pas dans une religion, mais dans une personne. Pas dans un credo, mais dans une personne vivante, une personne qui a souffert la mort, qui est morte, comme tout homme pécheur, mais comme il avait accompli la volonté de Dieu, la mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il n'a pas péché, il a obéi. Il a accompli la mort, il a accompli le sacrifice, s'est offert lui-même. La mort ne pouvait pas le retenir. Et puis la résurrection a pu être manifestée. Et la résurrection dépend, ma résurrection dépend de ma relation que j'ai avec celui qui est déjà ressuscité. Amen. Si je ne peux pas me livrer à lui maintenant, quand est-ce que je m'en vais me livrer? Vous croyez? Après la mort, vous croyez que c'est là qu'on va? Non. C'est quand on lit la parole de Dieu, qu'on croit la parole de Dieu, quand on voit ce que Jésus-Christ a fait, et qu'on vient à lui et qu'on accepte lui, eh bien alors c'est à ce moment-là qu'on a une relation qu'il faut maintenir. Évidemment, il faut la maintenir. Je crois même qu'il y a cette pensée, comment est-ce qu'il dit, pour vous exhorter et pour vous attester, s'il dit ça, c'est justement pour les exhorter, pour les exhorter à garder, pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attaché est la véritable. C'est pour qu'on reste attaché à cette grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ. Il faut absolument que je le connaisse mieux. Amen. Je le connaîtrai bien, totalement bien, quand je le verrai. D'accord? Mais en attendant, je peux le connaître mieux en écoutant, en relisant, en méditant, en priant, en cherchant sa communion et en marchant avec lui. Je peux le connaître mieux à ce moment-là. Voyez? Et puis après, il dit, il parle de l'élu qui est à Babylone. L'élu, comment est-ce que qu'ils avaient marqué là? Hein? Il me semble que j'avais marqué quelque chose. Oui. Ah oui, j'avais marqué. Qu'est-ce que c'est que la lune? Dites-moi peut-être. Et moi, je l'ai marqué maintenant. Je veux déjà vous dire. Qu'est-ce que ça veut dire, la lune? Qu'est-ce que c'est qu'une lune? Comment est-ce que vous pouvez exprimer cela en plusieurs paroles? Pour qu'il y ait une élue, il faut d'abord qu'il y en ait plusieurs qui se présentent. Ça veut dire que c'est un choix. Vous voyez? C'est un choix. L'élu, c'est un choix. Dieu, l'élu, c'est Dieu nous a choisis. L'Église est appelée l'élu. Ce n'est pas moi qui invente. C'est écrit là au verset 13. L'élu qui est à Babylone, et de qui est-ce qu'il parle? L'élu qui est à Babylone, c'était qui? C'est l'Église. C'est l'épouse de Jésus-Christ, mais qui est à Babylone pour le moment encore. Nous sommes à Babylone. Mais on a été choisis, c'est Dieu qui nous a choisis. Ça remet les horloges à leur place, hein. Je veux dire, si vous pensez que c'est vous qui avez choisi Dieu, c'est pas vous, c'est non, c'est lui qui a choisi. C'est lui qui nous a choisis. L'élu, donc, l'a choisi, qui est à Babylone, vous salue. Il veut dire que toute l'assemblée dans laquelle je me trouve, eh bien, ils vous saluent bien, à vous qui êtes là-bas, à qui j'écris. Bien écrit. Je ne me rappelle plus à qui est-ce qu'il écrivait. Il est écrit aux Hébreux, je pense. Qu'est-ce qu'ils ont marqué? Au début, il faut voir. Ah oui, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Hein? À ces gens-là, plus spécialement, de la dispersion, les croyants qui sont dispersés. Donc, c'est à eux qu'il écrivait tout spécialement. Ben, nous aussi, nous sommes dans la dispersion. Mais cette parole, donc, elle est pour nous. Et vous salue. Verset 14, saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. J'ai pas vu à ce sujet de ce verset-là, mais à d'autres endroits, il est question d'un saint baiser, si je me trompe. Hein? Mais là, c'est bien précisé, c'est un baiser d'affection. Affectueux. Et il y en a qui. Il y a des dénominations dans des credos. C'est un signe de ralliement. Ils s'embrassent d'une certaine façon, comme ça. Mais en fait, c'est comme c'est écrit ici. Il faut que ce soit un salut d'affection. On reconnaît qu'on a été rachetés tous au même prix, qu'on fait partie de ceux qui ont été. Qui ont été graciés, qui ont reçu le secours de Dieu, on est devenu des croyants, on n'était pas, mais on est devenu par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc on est des frères et des sœurs, et voilà. Donc saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. En Christ. Là, il n'a pas dit en Jésus, il a bien dit vous tous qui êtes en Christ, ça veut dire qui avez cette onction de l'Esprit de Christ, vous êtes dans cette onction, le temps. Ça, c'est une parole qui a été lue par ceux qui vivaient peut-être au 3e siècle, ou au 5e siècle, au 10e siècle. Tout cela, ils ont lu. Voilà. Les conditions de vie étaient différentes. mais ils étaient en Christ. Alors, c'est pour tous, comme il dit ici, que la paix soit avec vous tous, qui êtes en Christ. Et pourtant, ce n'était pas d'être. En ce temps-là, c'était le temps de la dénomination. Maintenant, par la grâce de Dieu, les vérités, Dieu a envoyé un prophète pour nous ramener aux vérités bibliques et pour que les croyants deviennent croyants de la parole, des croyants en Jésus-Christ, pas des croyants en un credo, mais des croyants en la parole et en la personne de la parole faite chair. Amen. C'est vrai. On a la parole écrite, mais il y a une communion spirituelle, invisible, mais de notre âme, avec la parole qui a été faite chair, qui est un homme, comme nous. Amen. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut s'en baiser l'un l'autre avec les baisers de l'affection. Nous sommes la même famille. Nous sommes déjà la même famille. Donc, que la paix soit avec vous tous qui êtes à Christ. Maintenant, on va lire un peu plus loin. C'est la deuxième épître de Pierre. Il y a peut-être des répétitions au commencement, mais nous allons lire. Simon Pierre, deuxième épître de Pierre, premier chapitre, premier verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. C'est la foi du même prix. Pourquoi il parle de prix? Mais quel est le prix? Combien ça? 100 000, 1 million? Non, il y a un prix. Comment? Jésus-Christ, oui. Mais le prix, c'était quoi? Voilà! Le prix, c'était le sacrifice de sa vie. Alors, vous voyez la relation que nous avons, qu'on devrait avoir. Si un est mort, parce que moi j'étais mort, et qu'il a vaincu qu'il est vivant, et que moi je suis vivant parce que je crois qu'il a vaincu pour moi, alors je ne vis plus pour moi. Je veux dire, le résultat là, oui. C'est les conséquences. C'est les conséquences. Si il est mort pour moi, donc je reconnais que moi j'étais mort dans le péché, parce que j'étais esclave de ma nature, j'étais esclave du diable, j'étais pas maître de ma vie pour servir mon Dieu et Père, mais maintenant, j'ai été racheté. Mais je ne vis plus pour moi, je vis pour ce Dieu qui m'a racheté. Et puis je vis surtout pour, puisque lui a dû quitter la terre, mais moi je suis sur la terre. Là, sur la terre, moi je vis pour celui qui a dû quitter la terre pour payer le prix de mon rachat. Ça se tient, c'est comme ça que ça se tient. C'est pas une question de religion, d'intensité, non? Il dit pour. Il me semble qu'il a parlé du même prix. Une foi du même prix que la nôtre. Même prix. Considère le prix qui a été payé, on considère la personne qui a payé. Et qu'est-ce que je peux faire si je n'ai de donner ma vie, de renoncer à ma propre vie, à ma propre volonté. Alors maintenant, je vis plus pour moi-même, mais je vis pour celui qui est mort. Mais il est vivant. Si bien que maintenant, je suis plus tout seul. Je suis conduit par son esprit, Je m'occupe des affaires de mon Père, par son secours, par sa présence, par son esprit, je m'occupe des affaires de mon Père céleste. Amen. Ah ben, je m'occupe aussi de ma vie terrestre, oui, d'accord. Mais avant, je ne faisais que de m'occuper de moi-même. Avant, je ne m'occupais pas du royaume de Dieu. Je m'occupais peut-être de ma religion. Maintenant, mais je ne m'occupe pas de ma religion. Je m'occupe de mon sauveur. D'accord? Mais c'est juste. C'est juste. Lui, il a dû quitter la terre. Moi, je suis là. Mais il faut que je sois à sa disposition. C'est souvent le problème, c'est qu'on ne réalise pas qu'on est vraiment, on devrait être à disposition du Seigneur. Et on devrait, ça ne veut pas dire qu'il vous demande de partir n'importe où, c'est pas ça. Mais être déjà, quand Jésus a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, il a seulement dit, vous serez mes témoins, là, à Jérusalem, et en Judée, ça veut dire juste à côté, et en Samarie, plus loin, et jusqu'au bout de la terre. Mais là où vous êtes, à Jérusalem, ou si vous êtes plus loin, vous êtes plus loin, là où vous allez, où que vous allez, vous êtes témoin. C'est ça. Moi, je vous dis la vérité. C'est pas pour faire du fanatisme, mais pour reconnaître les choses comme elles sont. Dieu va nous aider à les comprendre. Si on sait qu'en réalité, c'est vrai, le prix a été payé. C'est un prix, c'était la mort, c'était le sacrifice, c'était le quitter ce qu'il aimait. Parce que c'était quand même un homme. Il a quand même vécu 30 ans avant, enfin 33 ans qu'on dit, hein, quand même vécu 33 ans sur la terre. Vous voyez qu'il était comme ça, sans relation, sans amis, sans... Non, quand il était enfant, il avait ses camarades. Il a vécu comme un homme naturel, comme un enfant naturel. Croyez que c'est un spécimen à part. La seule chose, c'est que il était dans l'esprit de Dieu, dans la volonté de Dieu, il ne faisait pas ce qui était mauvais. Il savait, il avait cet esprit, il pratiquait les choses qui étaient justes, c'est tout. Mais il ne prêchait même pas. Il n'a pas dit qu'il prêchait. La seule chose, c'est quand il avait 12 ans, il est resté. Oui, il avait 12 ans, hein, quand même, c'est déjà. C'est là, pour les Juifs, c'était l'âge de la responsabilité du jeune homme. Le garçon, à 12 ans, il devait s'occuper de la foi. De la foi juive. Hein. Il s'occupait de, enfin, devait apprendre, il devait entrer, il était responsable, c'est comme si, pour le cas où son père mourait, c'était lui qui prenait la succession, même à 12 ans. On avait le droit. Donc, c'est pour ça qu'à 12 ans, on nous dit que, il est resté à Jérusalem. Il avait des choses qu'il voulait encore voir, il les voulait interroger. Pendant qu'il était là, où étaient rassemblés tous les prêtres, il voulait les interroger sur des sujets. En tant qu'homme, il voulait connaître ce que les chefs disaient. Voilà. Donc c'est la seule chose, mais il n'a pas manifesté, mais il a seulement dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? C'est la seule prédication qu'il a faite à ce sens-là. Il a dit ses parents, parce que ses parents étaient inquiets. Comment tu nous fais ce que Enfin, comment? Ils m'ont rapproché, quoi. Nous, on est inquiets, on court partout pour te chercher. Et puis toi, tu es là, écoutez, là. Blablabla. Mais il dit, mais ça ne vaut pas. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Et ça, ce n'était pas le travail de la menuiserie, il y a ni celle de la charpente. Son père était charpentier. Selon la chair, son père, adopté, selon la chair. Mais c'était, il parlait de son père, des affaires spirituelles. Donc, à 12 ans, il était conscient qu'il avait une responsabilité d'homme. Il devait prendre ses responsabilités. Il avait bien apprendre. Enfin, je ne veux pas vous faire aller plus loin. Je relis simplement ici ce que nous venons de lire au chapitre, donc le deuxième épître de Pierre, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Donc il est serviteur, il est aussi apôtre, il est envoyé de Dieu, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc c'est pour cela-là qu'il est serviteur et apôtre. Pour l'édification, parce qu'il ne faut pas oublier que l'épouse ne sera pas prête si elle n'a pas les ministères, si les ministères de la parole ne sont pas manifestés au milieu d'elle. Il ne peut pas, faut pas croire que tout d'un coup, vous savez être fait. Le Seigneur a suscité des ministères, il suscite encore les ministères qui sont nécessaires pour amener les croyants à former un vrai corps en Jésus-Christ. Les ministères ici, c'est pas pour l'extérieur. Quand Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, il n'a pas dit, vous les apôtres, vous recevrez une puissance, parce qu'il y a des doctrines, je sais pas, les baptistes ou autres, ils disent, c'est seulement les apôtres qui avaient reçu. Non, c'était les 120 qui étaient là. Ils étaient 120, hein. Ils n'étaient pas 120 apôtres. Ils étaient 120 croyants. C'était les croyants qui étaient là. Bon, ils ont été plus de 500 d'abord, et puis ils ont attendu, ils ont attendu. Ils attendaient la promesse, mais la promesse est venue sur les 120 qui ont persévéré. Donc l'Esprit qui est venu, c'était la promesse, il avait dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous serez mes prédicateurs. Ils ont reçu la puissance, tous ont reçu la puissance du Saint-Esprit et nous recevons, nous avons besoin aujourd'hui encore, tous, de recevoir la puissance du Saint-Esprit pour être témoins. Si vous avez un ministère, il sera manifesté. Mais de toute façon, il faut être témoin. Hein? Tous les témoins n'ont pas de ministère. Mais tous les ministères sont aussi des témoins. C'est vrai. Il faut voir les choses comme elles sont justes. Donc, il faut que je m'arrête ici. Donc c'est à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. La justice qui a été apportée, qui vient de Dieu, mais qui a été apportée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été accomplie. Alors il peut dire que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Donc cette grâce, cette paix peut être multipliée car la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, on la laisse entrer, on pénètre, on entre dans cette connaissance qu'on peut avoir par la parole que Dieu nous a donnée pour notre temps. Alors, cette connaissance entre, ça augmente, donc, ce que cela augmente en nous, c'est la grâce et la paix. Ainsi, nous pouvons être des témoins fidèles là où le Seigneur nous place. Amen.